21e titre de champion d'Italie pour l'Inter Milan, malgré la transition réussie menée par l'entraîneur Christian Kivu. L'Inter doit-elle faire sa révolution tactique et sportive ?
RMC, After Italy,
Jérôme Sillon.
Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame Daniele Manuccia. Ciao Daniele.
Ciao Loïc, ciao Jérôme, ciao tout le monde.
Et donc avec Loïc Moreau, salut Lolo.
Salut tout le monde. Ça va ?
Ça va et toi ? Bah t'as grand sourire toi, évidemment, t'as grand sourire. Puisqu'un an après avoir échoué à un point du Napoli, l'Inter a remporté sa deuxième Serie A en 3 ans. Sacré à 3 journées de la fin, les Nerazzurri ont assumé leur statut de favori. Christian Kivu a parfaitement pris le relais de Simone Inzaghi sur le banc en proposant un jeu plus offensif dans lequel Federico Di Marco a étincelé. Comment l'Inter a bâti son titre ? Malgré ce scudetto, le club toscan doit-il faire sa révolution, changer de système de jeu et renouveler son effectif ? Voilà ce dont on va parler dans l'After Italy. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, Lolo,
c'est que c'est le club lombard et pas le club toscan.
J'ai dit toscan, voilà, mais donc ça commence bien, évidemment.
Mais tu reviens de vacances, c'est normal, t'es fatigué.
Et puis c'est parce que j'étais en vacances en Toscane.
En plus,
pas du tout, pas du tout. Même si j'aurais bien aimé, parce que c'est une très belle région. Le club lombard, bien évidemment, c'est juste au-dessus la Lombardie par rapport à la Toscane. Commençons par dire d'abord, Lolo, que l'Inter a largement dominé la concurrence cette année et notamment grâce à son pouvoir offensif.
Ouais, alors ça a été une saison un peu particulière, hein, puisque effectivement, l'Inter était favori. On sait quand même l'état de délabrement psychologique dans lequel le club était après avoir perdu, comme tu le disais, le Scudetto au profit du Napoli et surtout la finale de Ligue des Champions 5-0 contre le Paris Saint-Germain, faut-il le rappeler. Donc l'Inter avait ce statut de favori qu'ils ont réussi à assumer en début de championnat. Puis il y a eu un creux où on a cru que les autres allaient pouvoir revenir. Les autres, quand je dis les autres, c'est notamment Naples, l'AC Milan et peut-être dans une moindre mesure la Juve. Et puis toutes ces équipes sont un peu délitées aussi au fur et à mesure de cette fin de saison et l'Inter a fait une sorte de tout droit. Alors comment l'Inter a réussi à faire ce tout droit, c'est notamment grâce à son secteur offensif, puisque les Nerazzurri ont beaucoup marqué cette saison. C'est l'une des équipes des 5 grands championnats européens d'ailleurs qui a le plus marqué en Europe et qui avait une défense aussi, on va dire, plutôt solide. Si on regarde, on prend donc le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés qu'on fait la différence de but. L'Inter, la troisième meilleure derrière l'incroyable différentiel du Bayern, plus 81, c'est lunaire. Barcelone est devant le Paris Saint-Germain. Donc c'est surtout grâce à son secteur offensif, pas forcément incarné uniquement par Lautaro et Thuram, mais aussi, tu le disais, par Federico Di Marco, que l'Inter a fait la différence sur la scène nationale.
82 buts marqués par l'Inter cette saison. Bon, Daniele, on va pas se mentir, on en avait d'ailleurs fait un podcast au début de la saison, un After Italy, sur la capacité de l'Inter à surmonter les traumatismes de la saison dernière. Est-ce que tu les pensais capable de répondre justement aux attentes à ce niveau où ils l'ont fait cette saison ?
Alors oui, moi à la fin de la saison dernière, je disais oui, c'est une grosse défaite, ça doit être une grosse déception à l'intérieur du vestiaire aussi, mais il faut pas, en Italie on dit balancer par la fenêtre l'enfant avec l'eau sale de l'enfant que t'as nettoyé.
Avec l'eau du bain,
c'est-à-dire,
nous on dit
faut...
en France.
Voilà, avec l'eau du bain. Et il fallait se rappeler des gros matchs que l'Inter avait joué contre Barcelone et Bayern Munich notamment. Et il fallait se rappeler que cette Inter, elle est partie il y a 6-7 ans avec Conte. C'est une structure, c'est des achats sur les marchés réfléchis, bien réfléchis, qui ont mené des fruits comme Bastoni, Barella, des jeunes joueurs arrivés à l'Inter pour montrer leur valeur. Et qui l'ont finalement montré et se sont affirmés dans les meilleurs de leur génération. Il ne fallait pas jeter tout ça, il fallait revenir dans les championnats, il fallait revenir en Coupe d'Europe. Ils ont eu la difficulté à trouver un entraîneur, parce qu'on le sait, Inzaghi, il est parti un peu comme ça, sans prévenir, ils ne savaient pas trop bien quoi faire, ils ont essayé Fabregas, maintenant il a dit Marotta que Kivu, c'était un choix meilleur de Fabregas de toute façon parce qu'il a joué à l'Inter, il a gagné les triplettes avec Mourinho. Donc voilà, Mais moi, je pense qu'effectivement, l'Inter, l'année dernière, elle avait perdu pour des détails, vraiment pour petites choses, parce que peut-être l'entraîneur, il avait un peu perdu les motivations, il avait perdu la capacité de faire les dernières 5 mètres sur leur marathon. Mais la marathon, il avait bien couru. C'était la meilleure équipe en Italie, ça c'est sûr, sur les plans absolus, des prestations absolues. Après les championnats, Naples avait bien mérité de le gagner. Mais si vous m'aviez demandé quelle équipe est la meilleure avec le plus de potentiel, ça aurait été l'Inter de toute façon. Et effectivement, Naples, ils ont beaucoup changé cet été aussi pour essayer de relancer. Et après, il y a eu des blessures et tout ça. Mais donc l'Inter qui joue dans la continuation de l'année dernière, ben ça fait du sens. Et ça a du sens qu'elle aille gagner de cette manière le championnat.
Avec un effectif. Avec un effectif, Lolo, qui a été retouché. Dans quelle largeur, Christian Kivu avait remodelé l'effectif?
À peu près ça, les largeurs. Non, c'était, comme disait Daniele, c'est la même équipe. C'est la même équipe, en tout cas, chez les titulaires. Quand on regarde le détail, c'était toujours Yann Sommer qui était le gardien de but. Certes, Manuel Akanji est arrivé pour remplacer Benjamin Pavard, qui est parti en toute dernière minute du côté de l'Olympique de Marseille. C'est à peu près le seul changement. Akanji qui s'est affirmé comme un titulaire, même s'il jouait plus à droite de la défense. Mais comme Acerbi a eu beaucoup moins de temps de jeu cette saison, la défense ressemblait à Bissek, Akanji, Bastoni. Donc Bissek et Bastoni étaient déjà là la saison passée. Le milieu de terrain, effectivement, Zielinski cette saison a pris le pas sur Henrik Kitarian. Mais sinon, Barella était déjà là. Çalhanoğlu était déjà là. Les latéraux, enfin les pistons, du coup, ce sont exactement les mêmes. Dumfries et Fede Di Marco, qui a réalisé encore une fois une saison énorme, et le duo titulaire d'attaque, Lautaro Thuram. Donc on était vraiment sur la même équipe, en fait, le même 11 titulaire à un ou deux joueurs près par rapport à la saison passée. Simplement, effectivement, les additions de Christian Kivu ont plus concerné le banc de touche, et c'est vrai que c'est là où ça a fait la différence, notamment les deux qu'on voit devant, Pio Esposito, dont on a beaucoup parlé dans l'After Italy cette saison, et en Juan Boni, que Kivu avait eu à Parme. Ce sont des joueurs qui ont été intégrés au 11 par Christian Kivu dans la rotation et qui ont vraiment performé et justement aidé aussi l'Inter à pas avoir en fait trop de différentiel quand Thuram a été en méforme, parce que ça a été le cas notamment en début de saison, ou Lautaro a été blessé, ce qui a été le cas en seconde partie de saison.
Et ce qui est encore le cas.
Et ce qui est encore le cas.
D'ailleurs, Daniele, moi je veux que tu me parles d'un joueur en particulier qui pourrait être élu meilleur joueur de la saison, même si Nico Pass risque d'avoir quand même les faveurs de nombreuses personnes. Mais Fede Di Marco, à quel point il a survolé la saison, notamment par la qualité de son pied gauche?
Oui, c'est ça, on a parlé de lui comme possible potentiel meilleur joueur de championnat. Il y a toujours la même critique qui sort quand il y a Di Marco. On parle de la finale de Paris, on parle des matchs avec l'Italie, elle a eu une énorme déception cette année, et beaucoup de supporters le met sur le dos de l'Inter, des joueurs de l'Inter qui faisaient un peu l'armure de cette équipe nationale. Mais je pense qu'il faut aussi revenir sur le système de jeu très peculier de l'Inter qui a vraiment propulsé Di Marco, en plus cette année, encore d'une façon encore meilleure que les années d'avant. On a parlé, Loïc il a parlé de Pio Esposito et Boni comme deux grands changements de Kivu, mais il a aussi changé le rôle de Zielinski qu'il a joué plus, et ses plans de Inzaghi avant qu'il ne faisait pas jouer, et aussi Di Marco et ses plans d'Inzaghi. Il a dit oui, bien sûr, si je ne me fais pas sortir à tous les matchs à la 60e minute, peut-être je vais faire encore plus de buts, des passes décisives. Comment dire, je joue mieux parce que je joue plus, tout simplement. Donc, il y a un peu ça, il y a un peu le jeu de l'Inter qui est un peu plus dominant contre les équipes moyennes des bas classements. Et il y a aussi le fait qu'il est plus mûr. Mais après, moi, je l'ai toujours dit, à partir de, on va dire, la deuxième saison, peut-être à l'Inter, sans pied gauche, il n'y a aucun latéral défensif qu'il a. Il y en a beaucoup de latéraux défensifs qu'on peut dire... Lui, c'est mieux, lui, il défend mieux, lui, il attaque mieux, lui, il est plus vite, il est plus costaud. Mais les pieds gauches de Di Marco, on peut les retrouver seulement dans des milieux terrains, dans des numéros 10 ou des attaquants. Il n'y a pas de latéraux avec ces pieds gauches-là.
Qu'est-ce que tu réponds, toi, Loïc, le fan de l'Inter que tu es, à la critique? L'Inter est un champion par défaut parce que la concurrence n'était pas au niveau. L'Inter n'a pas été capable de battre les autres équipes, les autres grands d'Italie, et ça ne l'a pas empêché d'être sacré champion d'Italie. L'Inter a été championne alors que Lautaro Martinez n'a pas fait une grande saison.
Je te ferai une réponse à la Metsila. Et alors? Et alors? Parce qu'en fait, et alors? Ça reste un scudetto, en fait. Enfin, tu vois, c'est là la différence entre l'appréciation en te disant en séparant le factuel de l'émotionnel. Le factuel, c'est que l'Inter a remporté le Scudetto. Le reste, c'est, si tu veux, c'est de la poésie. On n'est pas là pour juger. On va pas reprendre le palmarès de Serie A en se disant, alors en 57 le champion il était comme ça, c'était magnifique. Alors en 82 par contre il craignait, il était nul, hein, tu vois. Donc en fait, voilà, l'important pour moi, le plus important, c'était de savoir si cette équipe allait savoir rebondir après les traumatismes qui sont très profonds. Quand tu perds quand même un championnat que tu tenais au creux de ta main à la dernière journée, avec en plus voilà, des contextes parfois un petit peu discutables, quand tu perds une finale de Ligue des Champions 5-0, la plus grosse défaite de l'histoire des finales de Ligue des Champions, tu te dis, tu récupères une équipe en miettes. Et ce qu'il fallait, c'est rebondir le plus vite possible. Et c'est ce qu'évoquait Daniele. Et Christian Kivu a réussi à faire rebondir cette équipe. Que Milan soit pas capable de faire un résultat à Sassuolo, ou que la Juve soit pas capable de battre Hellas Vérone pour... évoquer les derniers résultats, enfin les résultats de la dernière journée avant l'enregistrement de ce podcast, j'ai envie de dire tant pis pour eux en fait, tant pis pour eux. Il fallait savoir, à un moment donné, on avait fait même dans l'After Italy un podcast sur l'AC Milan qui n'était plus qu'à 4 points je crois, ou 7 points de l'Inter. Il y avait moyen d'aller le chercher. On rappelle que l'un des gros défauts de l'Inter cette saison, c'est de ne pas avoir été capable d'être bon dans les rencontres face aux gros, les deux derbies de Milan, par exemple. Face à Naples, ça a été compliqué. Face à la Juve, ça a été compliqué. Face à la Roma, non, face à la Roma, c'était facile. Mais ça a été dur dans les gros matchs. Et Daniele l'évoquait. Effectivement, l'Inter a gagné son Scudetto en battant les équipes de bas de tableau et de milieu de tableau. Mais le fait est que l'avance est telle qu'ils sont champions à 3 journées
de
la fin.
Avant de parler de la saison prochaine et donc de ce que pourrait changer, améliorer l'Inter, juste un mot quand même, Daniele, sur un joueur qui brille en cette fin de saison et qui va nous intéresser, nous les Français évidemment, à la Coupe du Monde, c'est Marcus Thuram. Selon toi déjà, est-ce qu'il a verrouillé sa place en équipe de France, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur son niveau de performance ces dernières semaines?
Alors, il s'est amélioré, c'est-à-dire on disait que peut-être la raison de ses prestations un peu moyennes, c'était une blessure que il fallait récupérer totalement. Là, il a l'air d'être bien récupéré parce qu'on le voit sprinter. Il y avait même un moment où on se disait peut-être qu'il sprinte pas parce qu'il a pas envie, il est déprimé, il veut être ailleurs, il veut changer d'équipe. Bah en fait, peut-être il avait juste un problème physique. Là, il est effectivement en top de sa forme. Il a marqué combien? Il a, je crois, fait beaucoup de buts dans les dernières 4 ou 5 matchs, mais vraiment énorme. Genre 6 buts, 2 passes décisives, un truc comme ça. C'était vraiment très, très présent dans cette finale des saisons-là, à la place de Lautaro, qui était un peu blessé. C'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, qui n'attire pas les lumières même en Italie, mais qui est très, très présent. Je pense qu'il continue à être sous-valué. Il a bien sa place en équipe de France. Il n'y a pas d'autre numéro 9, vrai numéro 9 à part lui et Mbappé. Cet été, même, il fallait penser à, je ne sais pas, aller chercher Eli Junior Kouroupi, je ne sais pas, un vrai numéro 9, parce qu'après, il faut mettre la balle dans les filets, dans la surface de réparation. À la Coupe du Monde, c'est moins technique, c'est moins sophistiqué que les footballs de club. Mais Marcus Thuram, c'est effectivement un joueur à la fois classique, mais avec une créativité et une façon de jouer aussi loin des buts, loin de la surface des réparations, assez complète. Je pense qu'il est vraiment... Je sais que Polo, par exemple, la drôle des dames allemande, ne partage pas mon opinion, mais je pense qu'il est sous-valué.
Et de toute façon, il va profiter également de la blessure de Hugo Ekitike, on le rappelle, hein, qui était plus ou moins un concurrent quand même pour lui, pour une place donc aux États-Unis. Dans un instant, l'After Italy continue, on parle de la saison prochaine. Que doit changer l'Inter? Que peut changer l'Inter? Quels sont les joueurs susceptibles de signer à l'Inter? Et dans quel système de jeu doit jouer Christian Kivu la saison prochaine? À tout de suite. De retour dans l'After Italy, toujours avec Daniele Manoussia, avec Loïc Moreau. On parle du 21e titre de champion d'Italie de l'Inter et on se projette déjà sur la saison prochaine avec l'effectif qui serait à disposition de Christian Kivu, qui lui a prolongé son contrat et est donc l'entraîneur désormais pour bien le moyen terme, j'ai envie de dire, en tout cas si les résultats suivent chez les Nerazzurri. Lolo, quels sont les joueurs déjà qui sont sur le départ?
Alors les joueurs qui sont en fin de contrat normalement ne seront pas renouvelés, je dis bien normalement parce qu'on ne sait jamais, ils ont laissé quand même la porte ouverte à certains, peut-être même Yann Sommer qui est le gardien titulaire donc déjà depuis trois saisons, qui arrive en fin de contrat, qui a fait une saison quand même en deçà de ses standards habituels. Alors il y a deux solutions, soit il sera effectivement libéré au 30 juin, soit il pourrait devenir la doublure du futur numéro 1. En ce qui concerne Francesco Acerbi, lui ça va se terminer là aussi sur une bonne note. Il a été beaucoup moins titulaire cette saison que les précédentes. On rappelle qu'il avait été décisif notamment contre Barcelone la saison passée. Pareil pour Stéphane De Vrij qui a vraiment dû se contenter de peu. On le voit, 15 matchs toutes compétitions confondues. Mais là aussi, la porte reste ouverte. Comme en fait, c'est quelqu'un qui ne fait pas de remous, qui dit rien, qui accepte son statut quoi qu'il arrive. Donc pourquoi pas un backup. Pour Matteo Darmian, par contre, là, ce sera terminé. On voit 4 matchs. Il a vraiment très très peu joué, l'ancien joueur de Manchester United. Donc ces quatre là sont sur le départ. Il y a aussi Henrik Mkhitaryan qui fait partie donc des joueurs qui sont en fin de contrat et qui ne devraient pas être renouvelés, même si lui a eu un rôle, on l'a dit, il n'était pas titulaire indiscutable contrairement aux années précédentes, mais à chaque fois qu'il est rentré, il a notamment marqué un but décisif contre Parme lors de la journée du sac. Et puis il y a trois autres joueurs qui eux sont sur le départ, mais pour d'autres raisons. Alessandro Bastoni, parce que bon, il y a eu tous les faits qui ont entouré son année 2026. Alors lui ne souhaite pas partir selon la presse italienne, néanmoins il y a un intérêt du FC Barcelone. L'Inter ne souhaite pas le vendre, en tout cas c'est le discours officiel, mais c'est l'un des joueurs avec une vraie valeur marchande hein. Côté interiste, on parle de 70-80 millions, donc si un club de première ligue venait à toquer à la porte, ça s'ouvrirait peut-être. Pour Denzel Dumfries, là c'est plus vicieux, c'est une clause qui est dans son contrat qui fait qu'il pourrait partir moyennant 25 millions d'euros au mois de juillet, donc cet été, si d'aventure quelqu'un venait et lui souhaitait partir. Donc là ça serait un départ subi pour le coup pour l'Inter. Et Davide Fratesi, là c'est plus un joueur qui est en échec à l'Inter, qui a fait une mauvaise saison alors qu'on pensait que sous Kivu il se relancerait par rapport aux difficultés qu'il avait avec Inzaghi. Et là pareil, c'est un joueur que tu peux valoriser quand même on va dire minimum 20 millions d'euros.
Bon, sur ces joueurs-là, un petit mot à dire peut-être, Daniele, sur qui tu veux mettre l'accent?
Bah, moi, je pense que Bastoni, si c'est vrai que Barcelone propose 60 millions, comme on dit, je pense que la réponse de l'Inter va juste être s'ils veulent un paquet cadeau ou pas. parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense que s'il part, c'est plutôt pour ça, plutôt que pour les questions de médias ou des supporters d'autres équipes. Je pense que c'est pas qu'il s'en fout complètement. C'était pas facile à un certain moment, mais ça va baisser au fur et à mesure avec les semaines qui passent. Moi, je pense qu'il y a le choix aussi à faire sur le système de jeu de l'année prochaine. On va en parler, je sais. Mais Dumfries, Fratesi, je pense que Fratesi, il n'a pas trouvé de place cette année. Et Dumfries, il risquerait de ne pas la trouver l'année prochaine s'ils vont changer de système de jeu. Parce que Dumfries aussi, il a des qualités très péculières. Moi, je pense que l'Inter, elle devrait profiter de ces championnats pour faire un changement courageux. Sur la base du fait que les supporters, ils vont être contents parce qu'ils ont gagné le championnat et ils ont oublié déjà la déception des Bodo et tout ça, pour changer le plus possible.
Voilà, et donc peut-être passer donc à un système à 4. On vous proposera tout à l'heure, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission, un 11 type possible avec un système qu'on vous a positionné en 4-3-2-1, le fameux sapin de Noël cher à Carlo Ancelotti. Mais avant de vous proposer ce 11, d'abord peut-être faisons le point sur les rumeurs d'arrivée. Alors, dans chaque ligne, l'Inter compte se renforcer. D'abord, commençons par les défenseurs centraux. Il y a beaucoup de noms qui sont cités. Quels sont ces noms, Loïc, et qui est susceptible vraiment de signer.
Alors, je ne vais pas tous les citer parce que sinon, on en aurait pour 52 minutes. Tu connais la presse italienne. Hein. Tous les jours, il y en a un nouveau qui sort, mais il y en a qui reviennent quand même régulièrement. On l'a dit, Bastoni pourrait s'en aller. Acerbi et De Vrij vont sans doute s'en aller. Donc, il faut trouver des défenseurs centraux, au moins deux. Et les noms qui reviennent le plus souvent, et il y en a un qui revient déjà depuis assez longtemps, on en parle, hein, Jérôme, c'est Oumar Soleil, le défenseur français de l'Udinese, qui est clairement dans le viseur de l'Inter. Après, voilà, il y a aussi pour l'instant des problèmes personnels qui font que il est pas l'Inter attend qu'il règle ça pour éventuellement s'approcher. La piste la plus chaude, c'est Tarek Muharemovic, j'ai toujours du mal à le dire, lui, le défenseur de Sassuolo qui appartient aussi à la Juventus. Il y a les pourparlers qui ont déjà été engagés. C'est un international bosnien qui réalise une très bonne saison à l'image de son club Sassuolo. Et ensuite, voilà, des noms qui reviennent un petit peu moins souvent, comme Evan Dika, le défenseur ivoirien de l'AS Roma, et Mario Gila de la Lazio. Mais des profils. Marotta a dit on aimerait se renforcer avec des jeunes Italiens et des étrangers expérimenté. Donc là, on est plutôt dans ce qu'il voudrait.
Voilà donc pour les défenseurs centraux, on verra ce qu'il en est, mais il y a un choix qui est très important, tu l'as déjà un petit peu évoqué Lolo, c'est le poste de gardien de but. Quid de Yann Sommer? Si Sommer s'en va, qui vient et en tant que numéro 1? Voilà, il y a deux pistes principales qui sont évoquées avec un gardien que connaît bien Daniele.
Ouais, donc bon, Sommer sera plus numéro 1 la saison prochaine, c'est quasiment une évidence. La question, c'est est-ce que Josep Martinez, qui est sa doublure, l'Espagnol, sur lequel l'Inter a investi il y a quelques années déjà, a les épaules pour être numéro 1? Au niveau des prestations, oui. Après, il lui est arrivé lui aussi un petit problème personnel, il a provoqué un accident mortel cette saison, ça l'a un peu perturbé. Donc il y a toujours cette question du gardien. Donc il y a Guglielmo Vicario de Tottenham qui a été évoqué. Alors il vit une saison compliquée à l'image des Spurs, pourtant c'est la priorité numéro 1, on le voit, 62% d'arrêt et il a encaissé 5 buts de plus que ce qu'il aurait dû selon les expected goals. Et à l'inverse, un joueur, Miles Villar, le gardien de la Roma, qui fait une saison énorme, c'est clairement l'un des meilleurs à son poste cette saison en Italie, 78% de tirs arrêtés, 5 buts évités. Mais voilà, après, encore une fois, on rappelle l'enveloppe dédiée pour l'instant, elle est de 50 millions d'euros allouée par Octri à l'Inter, donc on ne pourra pas tout acheter, ni acheter toute la Roma, sinon Daniele serait bien sûr en dépression.
Svilar, c'est le gardien qu'il faut à l'Inter, selon toi, Daniele?
Non, moi déjà, si la Roma elle change complètement, je ne suis pas déprimé, même peut-être on va vers le mieux. Bah, je pense que Svilar, c'est le meilleur gardien du championnat ou un des deux, trois meilleurs gardiens. Je pense que oui, c'est une sûreté parce que c'est un gardien très très sûr de lui, très tranquille. Des positions, il fait des arrêts décisifs, il a encore des petits défauts, des fois il fait des petites erreurs, mais il est dans sa pleine maturité et c'est surtout un gardien que voilà, il pourrait rester longtemps et ça va résoudre. Après, il faut dire une autre chose, la Roma, elle a besoin d'argent. Donc la seule raison pour laquelle la Roma, elle pourrait choisir de le vendre, c'est pour l'argent. Sinon, il reste, parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs de la Roma aussi.
Ouais, Svilar donc, et puis Ndika, autre joueur de la Roma qui pourrait signer à l'Inter dans un secteur de jeu qui est très important, c'est Manu Koné qui fait partie d'une liste là de noms qui font saliver.
Ouais, clairement, c'est peut-être le secteur où on attend le plus. On a dit qu'éventuellement, enfin c'est l'avis de Daniele et il a pourquoi pas qu'il faudrait peut-être changer de système. Quoi qu'il arrive, qu'on reste avec le 3-5-2 ou qu'on change de système, cette équipe elle manque de créativité et elle manque de solidité. Elle manque d'un box-to-box, tu vois, qui soit solide. La créativité, tu l'aurais chez Nico Pass, l'un des meilleurs joueurs, tu l'as évoqué Jérôme, de ce championnat de cette saison, mais qui appartient au Real Madrid. Donc forcément, ce ne sera pas facile. Et Manu Koné, c'est le nom au poste de 8, on va dire, qui revient le plus souvent parce que c'est un joueur qui fait une très très bonne saison et que l'Inter suit depuis longtemps. Après, voilà, Manu Koné, ce serait 50-60 millions. La Roma, comme le disait Daniele, a besoin d'argent, ne le braderait pas. Donc Koné Pass, c'est les noms qui reviennent le plus souvent, mais c'est aussi les plus onéreux. Et avec 50 millions de budget de base, ça voudrait dire qu'il faudrait séparer deux joueurs à forte valeur marchande comme Bastoni, comme Dumfries, voire Fratesi pour espérer attirer ce genre de joueurs.
Voilà, donc pour les milieux de terrain qui coûtent cher, on parle également d'Ederson de l'Atalanta et de Curtis Jones de Liverpool. En attaque, Moussa Diaby est également dans le viseur, joueur d'Al-Ittihad, l'ancien d'Aston Villa, qui a marqué 4 buts et donné 13 passes décisives cette saison en Arabie Saoudite. Alors du coup, ce fameux 4-3-2-1 que tu nous as concocté, Lolo, à quoi il pourrait ressembler, à quoi pourrait ressembler l'Inter 2026-2027?
Alors si l'Inter venait à changer de système de jeu et repassait à 4 derrière, ce que beaucoup appellent de leur vœu, ça pourrait ressembler à ça, je dis bien ça pourrait, avec Vicario donc, qui est le plus proche selon la presse italienne. Il pourrait y avoir Palestra qui appartient donc à l'Atalanta, qui est prêté cette saison à Cagliari et qui fait une très bonne saison, qui pourrait remplacer Dumfries en cas de départ. Akanji, ça ne bougera pas, en plus depuis que l'Inter a officialisé le titre, son option a été automatiquement levée, donc 15 millions vont aller à Manchester City et l'Inter le garde. On a évoqué Muharemovic donc pour remplacer.
Tu vois, tu y arrives.
Éventuellement, ouais, je me suis entraîné. Pour remplacer Bastoni, Di Marco resterait, évidemment, il est invendable. Après, à ce poste de latéral gauche, est-ce qu'il aurait aussi tout l'apport qu'il peut avoir? Ça, c'est, on ne sait pas vraiment. Çalhanoğlu, Barella, il n'y a pas de raison que ça bouge. Il y aurait donc possibilité de voir Manu Koné booster, densifier un peu ce milieu de terrain. Et avec, effectivement, on resserrerait hein, plus que sur l'infographie, Paz et Diaby en créatif derrière Lautaro. Effectivement, si Diaby ne vient pas, il y a toujours Thuram qui est là. Mais voilà, c'est une projection, en tout cas, si l'Inter venait à changer de schéma tactique.
Elle te plairait cette équipe, Daniele?
Ben oui. qui ne
tu serais jaloux
pas. Mais il y a... Non, parce que de toute façon, elle n'est pas au même niveau. La Roma, elle doit s'améliorer pour se qualifier à la Champions League l'année prochaine. Cette année, on va faire l'Europa League, on va la gagner peut-être. Mais il y a Çalhanoğlu, par exemple. Moi, j'ai un doute sur Çalhanoğlu. Moi, je pense que s'il va y avoir un changement de tactique, de système de jeu, ouais, c'est sur les milieux. Je pense que Kivu va passer un milieu à deux. Parce qu'il ne va pas avoir Çalhanoğlu. Je pense que Çalhanoğlu va partir. Il voulait partir la saison dernière, l'été dernier. Ils sont en train de tout faire, tout essayer pour le garder. Mais là, c'est une question aussi de cœur. Ils vont rentrer en Turquie. Donc, je ne sais pas. S'il part Çalhanoğlu, c'est tout simplement impossible de remplacer. Il n'y a pas de joueur comme Çalhanoğlu. Donc, tant qu'à faire, on peut changer complètement de milieu. Ederson, Manu Koné, tout va bien. Nico Paz, si l'Inter elle est capable de l'arracher à Madrid... Ben, tant mieux pour eux. Palestra aussi, c'est pas évident, parce que quand même, il a du marché. C'est un joueur que moi, j'adore. Incroyable. Il joue avec le pied droit. Il touche la balle avec le pied gauche. C'est très particulier. Donc, très belle équipe. Dans les rêves de Loïc, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Mais
pas que les miens, hein. Peut-être des autres interistes, dites-nous d'ailleurs en commentaire, si ça se trouve, voilà, vous avez d'autres idées, d'autres envies.
Exactement, vous pouvez commenter évidemment ce 11, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, évidemment. Il faut qu'on s'arrête là, Daniele, sauf si tu veux rajouter un petit mot rapide.
Forza Inter. Je voulais juste ajouter que justement, c'est pas des noms que Loïc il a sorti de sa tête. Il y a tellement des noms qu'aujourd'hui, vous savez, ils ont fait un nom du championnat français, de Lille, Fernandez Pardo. Voilà, pour vous dire, tellement des joueurs qu'ils ont liés à l'Inter dans ces jours. Donc voilà, vraiment, effectivement, ça pourrait être aussi une équipe similaire à celle de Loïc.
On va screener au mois d'août, on la remettra pour voir ce que ça a donné, tu vois. Et surtout, on sera planté sur toute la ligne.
Et on va suivre ça également pendant toute la Coupe du Monde, évidemment, parce que le mercato sera très actif en Italie. C'est une habitude. Merci Daniele, merci Lolo. L'After Italy, vous le retrouvez en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.
RMC After Italy.